Extrait numéro 2, le piano. Lecture, Marc Boisson. Le premier week-end qui suivit cette révélation, il décida de s'offrir une journée de concert de Jean-Sébastien Bach. Sa compagne était en voyage, ce qui lui permettait d'être totalement concentré à ce plaisir tant inattendu et si particulier, venu du tréfonds de ses envies. Cancre de la lecture musicale, Simon n'en était pas moins et depuis longtemps un auditeur de musique baroque bouleversé par la musique de Bach. Des nuages avaient rafraîchi le soleil qui inondait la pièce à son réveil et jouait à cache-cache avec le piano. Il posa une boisson mentholée gazeuse sur le haut de l'instrument et adressa ses doigts désormais confiants à la nacre des touches. Il n'avait pas hésité pour l'entrée en concert. Il entama les notes de la partition du prélude et fugue en mi mineur BWV 855 du clavier bien tempéré. Son regard s'en éloigna bientôt, sans qu'il s'en rendît compte, pour plonger dans le va-et-vient de la mélodie, que ses doigts jouaient comme s'il l'avait toujours connue. Ils débutèrent lentement, ainsi que la composition le demandait, revinrent sur eux-mêmes, partirent en ligne droite, firent battre le contrepoint d'une main l'autre, dont le morceau ne se départirait plus, un rythme de fond qui lui offre son ossature et sa confiance, pour exprimer sa liberté. Les notes s'accélèrent ensuite, comme pour chuter, mais demeurent toujours debout, vives, parfaites. Il joua encore et encore les 2 minutes de cette offrande que Bach a faite à la plénitude sans présager de sa postérité. Il enchaîna le prélude et la fugue dans un mouvement dont il ne sut la proximité de l'achèvement que parvenu au point culminant de sa vitesse et de son volume. Les notes frappaient les parois de sa chambre, semblaient sur le point de s'y encastrer, le bois du sol faisait écho au piano retentissant. Un vaste espace sembla un instant devoir tout entier accueillir la mélodie, puis, au fur et à mesure que le pianiste en diminua le volume et en ralentit l'exécution, il rétrécit, pour ne plus constituer que les abords de la propriété, puis le jardin, avant d'entrer dans la maison pour rejoindre finalement Simon à l'étage. La matinée avait soif d'amplitude, une fraîcheur qui continuait à s'opposer à la lumière dans une composition revigorante, qui ressemblait à la menthe gazeuse qu'il vida à demi en une contorsion avant qu'elle ne devienne le prélude et fugue en do mineur BWV 847. Les notes pétillèrent comme renvoyées d'un bord l'autre d'un facétieux réceptacle. Au centre du tourbillon, le calme revint pour une allègre promenade cadencée qui porta l'interprète vers la pleine assurance du prélude et fugue en do majeur BWV 846, dont chaque note semblait détachée de la précédente, tout en étant l'exacte évidence de sa succession. Il joua les pièces du clavier bien tempéré sans compte de leur progression numéraire et avec des coups d'accélérateur qui faisaient fi des limitations de vitesse dans la mesure ou dans l'absence de mesure de son ignorance. Il avait programmé pour la suite de la matinée la toccata et fugue en ré mineur BWV 565. Il l'a reconnu à l'exécution comme un morceau de choix du répertoire des orgues d'église et se rappela qu'il l'avait joué chez Thévenet Musique. Il n'aimait pas beaucoup la puissance assourdissante de ses gigantesques pianos, comme lui déplaisait la sonorité du clavecin, stridence de centaines de petites billes heurtant la paroi d'une casserole. Il n'ignorait pas que Bach avait composé pour ces deux instruments et que le piano n'existait pas à son époque. Nombre de ses pièces paraissaient pourtant avoir été écrites pour la postérité du piano. Le passage sur terre de Jean-Sébastien Bach et même sa chronologie ne pouvaient être assimilés à celle d'un simple homme. L'homme qui tutoyait Dieu avait-il lu et apprécié quelque part ?